Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, vous écoutez RDWA sur le 107.5 FM et sur le www.rdwa.fr. Pour l'interview du jour, nous accueillons Léa Meulet. Bonjour Léa.
Bonjour Tania.
Tu vas bien ?
Ouais, ça va.
Alors, tu viens nous parler de ton art, qui est aussi ton métier.
Oui.
Quel est-il ?
Je suis ébéniste, restauratrice de mobilier et d'objets anciens.
Et tu fais ce métier depuis combien de temps ?
J'ai commencé à 19 ans, j'en ai 29, donc ça fait quasiment 10 ans.
Comment t'es venue cette envie d'exercer ce métier ?
Je crois que j'ai passé beaucoup de temps dans mon adolescence dans un grand hangar plein à craquer d'objets en tout genre. Et de là est née une passion pour l'objet ancien. J'aime l'histoire qu'elle véhicule et j'avais envie de les manipuler, d'en prendre soin et de leur permettre de continuer à exister en leur redonnant une deuxième vie, quoi.
Comment tu décrirais ton métier de restauratrice de mobilier et d'objets anciens ? Tu nous fais une petite description de ton métier d'art, en fait. C'est un métier d'art ?
Oui. Alors, qu'est-ce que je fais dans mon atelier quand je reçois une pièce ? Déjà, je fais un diagnostic. Voilà, je regarde la date. Ça me permet de comprendre comment je vais la restaurer. Ensuite, j'écoute aussi la demande de mon client ou de ma cliente, à savoir si c'est une restauration traditionnelle, où du coup, on conserve l'intégrité du meuble tel qu'il est, ou si c'est une transformation pour le moderniser. C'est deux formes de réponses différentes. Par contre, il y a une ligne conductrice dans ma réponse, c'est que j'utiliserai des produits qui ne vont pas dénaturer l'objet, même si je suis amenée à le repeindre, par exemple pour le moderniser. Je vais utiliser des produits qui sont compatibles, qui vont laisser respirer le bois, que je vais fabriquer moi-même.
Des produits que tu fabriques toi-même ?
Oui, je fabrique mes peintures.
Ah bon ? Ben, oui. Tu m'expliques un petit peu, parce que ça me questionne.
Alors, si je suis amenée à fabriquer de la peinture, ma base, ce sera en général de la colle de peau de lapin.
De la colle de peau de lapin ?
Ouais, c'est littéralement fait avec des peaux de lapin bouillues, qui donne une espèce de gélatine, qui est une base de peinture en phase aqueuse, dans laquelle j'ajoute des pigments. Et du coup, je peux créer ma texture et mes couleurs sur mesure. C'est un médium qui est utilisé aussi dans la dorure.
Ah bon ?
C'est ce qu'il y a dessous la feuille d'or, en fait, pour faire l'assiette. Du coup, j'ai une liberté et dans la texture et dans l'approche de la couleur et de la lumière qui est super intéressante. Et je peux faire du sur-mesure. Ça reste compatible avec le bois, ça le laisse respirer. Ce n'est pas des peintures qui sont sclérosantes ou qui sont issues de la pétrochimie. Et cette démarche-là, elle m'intéresse parce que je suis libre de A à Z de créer la lumière et la couleur qui m'intéresse.
Et du coup, c'est quoi ton quotidien ? Parce que, enfin voilà, du coup, il faut que tu trouves des peaux de lapin, que tu les cuisines.
Non, mais
où tu achètes déjà les produits faits.
Oui,
vas-y, ouais, explique-moi un petit peu le processus.
Alors, on a des fournisseurs pour les métiers d'art. J'achète sur Paris, dans une maison qui s'appelle La Verdure, où j'achète déjà ma colle préparée. Je ne vais pas m'amuser à chasser le lapin.
Je ne sais pas.
Et à préparer ça. Non, j'en suis pas là. Par contre, il y a d'autres matériaux que je prépare moi-même. Je prépare mes colles, qui sont des colles aussi anciennes. C'est du vocabulaire un peu barbare. Alors, je prépare des colles à base de peau et d'eau d'animaux.
Ouais.
Voilà, colles d'os et colles de nerfs, qui sont des colles chaudes, que j'utilise à chaud, qui sont des colles traditionnelles qui ont toujours existé. Et du coup, vu que ma démarche, elle est de conserver l'intégrité du mobilier, je vais utiliser les mêmes colles si c'est pour du structurel, c'est-à-dire tout ce qui est assemblage de pièces de bois les unes dans les autres, pour que le prochain ébéniste restaurateur, si tant est qu'il le restaure dans 100 ans, soit amené à démonter cet assemblage, il est réversible. Et du coup, l'idée, c'est de continuer à travailler comme on a travaillé avant et de pouvoir projeter dans le temps que d'autres auraient la même démarche et pourraient travailler sur des matériaux qui soient réversibles.
Est-ce qu'on peut appeler ça des méthodes traditionnelles, en fait ?
Oui, clairement.
Est-ce qu'il y a une culture de restauration du mobilier, de l'objet ancien, particulière à notre pays ? Ou est-ce que c'est quelque chose d'assez global ?
Oui, alors en tout cas pour ce qui est des colles et des vernis, c'est des choses qui sont quand même propres à chaque pays. Chacun a ses recettes en fonction de ce qu'il avait à disposition. Moi, je connais plutôt la version française, donc les colles et les vernis. Après, c'est des matériaux qui sont aussi issus des transits. Par exemple, les vernis que je fabrique, c'est des vernis à base de gomme lac. La gomme lac, c'est une résine qui est sécrétée par un insecte.
Ah bon ?
Ouais.
Lequel ?
La cochenille, la femelle uniquement.
Ah.
qui sécrète une sorte de petit cristal que je viens concasser et mélanger à de l'alcool. Et ce sera à la base d'un vernis qu'on appelle le vernis tampon, qui est le vernis traditionnel pour le mobilier. Voilà. Après, c'est des matières qui sont issues des différents transits qu'il y a pu y avoir au cours des siècles. Ça vient d'Asie. Donc moi, je m'inscris dans cette démarche-là d'utiliser les mêmes matériaux que lors de la conception du meuble. Quoi.
D'accord, c'est un espèce de suivi, en fait.
J'ai un cas de conscience quand je fais ça.
C'est vrai.
J'ai pas envie de tartiner tout et n'importe quoi sur une belle pièce.
Et du coup, ton parcours, je sais pas, est-ce que tu as fait du coup des études ? Est-ce que ça s'apprend ? Ou es-tu autodidacte ?
Si tu veux bien
me parler un peu de ça.
J'ai étudié.
T'as étudié ?
Ouais, après le bac, j'ai fait une première année d'université. Où j'étais pas à ma place, j'ai étudié les langues. Et du coup, j'ai fait un parcours rétrograde. Enfin, on considérait ça comme rétrograde. Je suis retournée vers un CAP d'ébénisterie que j'ai fait en un an, en alternance avec un restaurateur de mobilier, justement. Donc la partie ébénisterie, c'est vraiment la partie conception. Comment est fabriqué un meuble dans sa structure ? Comment est-ce qu'on assemble traditionnellement des pièces de bois pour faire un objet stable ?
Mmh.
Voilà. Donc c'est vraiment le côté mathématique, cartésien de l'affaire, quoi. Mais comme disait mon patron, on ne fait pas du vélo à l'envers, il faut savoir comment est construit un meuble pour pouvoir le démonter. Voilà, donc j'ai fait ça en alternance pendant une année chez un restaurateur de mobilier qui était dans le Loir-et-Cher. Ma formation, elle était en Touraine, donc je faisais des allers-retours entre l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher. Voilà, et du coup, la personne qui m'a acceptée en stage s'appelait Daniel Valenbois, c'est quand même rigolo.
C'est joli, ouais.
Oui. Et lui, il était restaurateur de mobilier. Et quand j'ai atterri dans cet atelier, il avait des placards pleins à craquer de tout un tas de produits. Voilà, les cols de peau de lapin, des pigments, de l'or en poudre, tout un tas de choses qui me... Voilà, c'était le placard de l'apothicaire, quoi. Moi, je voulais savoir comment on utilisait tout ça, donc c'était chouette. J'ai fait ma première année chez lui et du coup, ça m'a permis de m'orienter et de me spécialiser dans la restauration. Voilà, du coup, après, j'ai fait une formation à Chartres, vraiment axée sur la restauration de mobilier. Une formation qui était super intéressante parce qu'elle était encadrée par le mobilier national. Du coup, on avait des pièces d'archives. Ouais, c'était super chouette. Avec tout un suivi sur comment on restaure une pièce et un débat avec le conservateur. Donc, on lui faisait des propositions. Parce que c'est des pièces qui sont du coup qui viennent des greniers du mobilier national. Donc,
rare, c'est des trésors en fait.
Ouais, c'est ça. Et c'était vraiment l'avantage de cette formation, c'est qu'on travaillait sur des pièces qui étaient d'époque et très bien construites. Donc on avait un suivi et des propositions à faire aux conservateurs. Et ensuite on pouvait travailler derrière et on était hyper encadré, pour pas faire de boulettes.
Bah oui.
Voilà, suite à cette année de formation, du coup, ça c'est la deuxième année de formation. Ensuite, je suis partie du côté de Saint-Étienne faire une autre formation qualifiante à l'Institut régional des métiers d'art et de l'ameublement, donc ça s'appelle l'IRMAC, contemporain, j'ai oublié le C. Là, du coup, c'était une formation donc pour adultes où du coup il y avait beaucoup de métiers d'art. On était une dizaine par formation, donc là c'était encore en alternance. J'avais un employeur du côté de Saint-Étienne aussi chez qui j'ai travaillé pendant un an. Des sauts de puce, des successions de formations et d'ateliers qui m'ont accepté pour travailler au minimum sur une année pour comprendre la démarche de mon employeur et ses popotes et ses secrets à lui, puisque tous les ateliers ont leur technique et leur petit secret d'atelier. Voilà, donc là, j'ai encore travaillé pendant un an pour un ancien qui était bien chouette. Et en alternance aussi sur Saint-Étienne, où du coup, on avait... tout un tas de cours super intéressants, allant de la photographie au dessin. C'était un suivi, pour derrière pouvoir s'installer, en fait. Donc, il y avait de la préparation à l'installation. Et on était, voilà, une dizaine d'artisans. Ça allait du doreur, j'avais une nana qui faisait du corset. Ah. Et eux, ils étaient le support, en fait, de la convention. Et on se voyait à raison d'une semaine par mois pour échanger déjà sur ce qu'on faisait dans nos ateliers. Et après, on avait des thèmes communs sur lesquels travailler. Donc, j'ai pu travailler avec une tapissière, j'ai pu travailler avec une corsetière. Enfin, voilà, c'était intéressant de mélanger les différents savoir-faire et d'essayer de trouver un support commun à la création. Donc on avait ça une fois par mois, c'était chouette.
Et du coup, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui exercent ce métier un peu particulier ?
Ouais.
Ouais, ça y est.
Ouais,
parce que je sais, enfin, je me suis un peu renseignée, j'ai vu que bah, c'était encore une profession très masculine.
Ouais, mais qui tend quand même à se féminiser. Et puis, on a, je pense, une autre sensibilité que pourraient avoir les hommes. Alors, je ne mets pas en concurrence hein,
ouais, ouais.
Les deux genres, mais j'ai pu constater ouais, que dans toutes mes formations, c'était quasiment du 50-50. Et c'était chouette, parce qu'il y a une autre approche de la finesse et de la lecture d'une pièce, de la sensibilité qu'on peut avoir autour de celle-ci. Et c'est des travaux qui sont très minutieux. On fait de la marqueterie, des fois, à la pince à épiler. Donc,
ouais.
C'est, voilà, c'est vraiment un travail ouais, très, très précautionneux. Et je pense que ça peut séduire plein de femmes. Mais il y a aussi le côté voilà, plus brut où, des fois, il faut démonter un meuble. On arrive à allier et précision et force physique aussi. Et du coup... Moi, c'est ça qui me plaît, c'est d'être des deux côtés, soit d'avoir un travail relativement physique où il faut poncer, raboter, voilà, qui est la partie structurelle, et puis vraiment la partie finition, qui est, je crois, celle qui me plaît le plus.
Ouais.
Ouais.
Finition, c'est-à-dire avec le petit pinceau
Ouais, venir mettre en lumière, en fait, tout le travail qui a été fait en amont sur la structure. Et,
de valoriser, en fait,
ouais,
l'objet,
c'est ça.
Ça.
Et puis, petit à petit, faire arriver la lumière sur des veinages, travailler la couleur, la teinte du bois, l'oxyder, le décrasser, lui enlever une partie de son temps, mais
sans trop
l'atterrer. Enfin, c'est ça, justement, le bon dosage. C'est d'être interventionniste, mais pas trop. Répondre aussi à la demande d'un client qui a besoin des fois d'éclaircir, de moderniser un vieux buffet qui serait tout noir et recouvert de cire depuis plus de 100 ans. Et dessous, il y a des cadeaux en fait.
Il y a des cadeaux ?
Ah oui.
C'est quoi les cadeaux ?
Ouais, c'est des bois qui sont hyper lumineux, qui sont voilà, très chauds, très chaleureux. Je pense qu'on a tous chez nous des meubles dont on ne soupçonne pas la lumière
intérieure.
Ouais.
T'es passionnée, Léa ?
Ouais, j'adore mon boulot.
Ouais. Donc après ta formation, tu t'es installée à ton compte ?
Ouais, j'ai attendu à peu près 4 ans. C'était des formations qui se sont succédées. J'ai pas eu de pause entre. J'ai fait un tout droit.
D'accord.
J'étais vraiment passionnée. Et voilà, au terme de la 4e année, j'ai été aussi soutenue par un collègue de mon patron de Saint-Etienne là, qui m'a dit « Écoute, Léa, tu peux te débrouiller toute seule maintenant ?» Et du coup, lui, on avait fait une collaboration. Moi, je m'occupais de toute la partie finition. Et lui, il s'occupait plutôt du structurel parce que je n'étais pas outillée. Je n'avais pas encore les machines et, voilà, pour faire vraiment refaire des corniches. Donc bref, lui, il s'occupait de ça. Et moi, je m'occupais de la partie sensible, celle qui me plaisait le plus, c'est-à-dire la finition, mettre en lumière, venir poncer, remettre des pièces de marqueterie. Et c'était un beau duo. Je pense que c'est lui qui m'a donné l'énergie et la force pour m'installer et me dire que je pouvais faire toute seule.
Et donc, tu t'es installée dans le Diois ?
Non, pas tout de suite.
Pas tout de suite ?
Ouais, je me suis installée du coup dans la Loire, première année. J'avais un atelier dans ma maison.
Pratique ?
Oui.
Ça dépend de la surface de la maison. Mais...
Non, mais j'avais une grande maison à l'époque. Et on travaillait à deux avec mon compagnon de l'époque. Quoi. Et ensuite, on est venu s'installer dans le Diois. On a trouvé un atelier à la Griotte. On
était
super bien accueillis. On a travaillé là-bas pendant 5 ans. Et ensuite, j'ai déménagé à Luc.
Où tu as un atelier ?
Ouais, j'ai mon atelier actuellement à Luc. Plus pour longtemps.
Plus pour longtemps ? Comment ça, plus pour longtemps ?
Et là, je dois de nouveau déménager, donc je suis à la recherche...
D'un atelier.
D'un atelier.
Donc Léa Melet cherche un atelier pour restaurer le mobilier et les objets anciens.
Oui.
Avec quel type d'outils travailles-tu ? En fait, tu nous as parlé un peu du rabot tout à l'heure, mais plus précisément, en fait...
Alors, je travaille beaucoup avec des outils manuels, avec des ciseaux à bois, des gouges, rabots, scie japonaise. Je crois que je préfère travailler à la main. Je me sens plus efficace que derrière une machine. Après, j'ai quelques petites machines. J'ai une scie à ruban pour dégrossir, un tour et ameler, une perceuse à colonne. Mais je ne suis pas équipée comme une menuiserie où on aurait des grosses machines, des gauchisseuses, toupies. Vu que je fais des petites réparations... Sinon, je vais travailler dans l'atelier d'un ami menuisier à qui je vais emprunter des machines, mais moi j'ai un petit espace et je travaille globalement à la main et je préfère prendre mon temps pour faire.
Récemment, est-ce que tu aurais fait une restauration qui t'a fait peut-être plus vibrer que d'autres ?
Alors là, ouais, dans les dernières pièces que j'ai faites, j'ai eu des séries de chaises qui étaient très belles, des chaises Tonnet.
C'est quoi ?
C'est les premières chaises industrielles étuvées. C'est les chaises de bistrot qu'on trouve dans tous les bistrots parisiens. Voilà, mais elles datent, moi je pourrais les dater entre 1890 et 1920.
Ah ouais?
Ouais, 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 c'était des belles pièces, il y avait encore l'étiquette et le numéro de série dessus, et c'est des petits trésors que j'adore découvrir en fait. Quand je détapisse, dessous il y a des étiquettes, et je suis ravie de me dire waouh, j'ai une pièce d'époque entre les mains, et elle s'inscrit dans une temporalité. C'est, voilà, je le situe aux alentours de 1890, et du coup c'est des chaises qui sont des bois étuvés.
Je ne sais pas ce que ça veut dire.
Alors, ouais, étuvé, on utilise le processus de la vapeur pour cintrer le bois. Donc une étuve, c'est une sorte de grand tuyau dans lequel on vient injecter de la vapeur chaude qui dilate les pores du bois et qui permet de le cintrer, en fait.
D'accord.
Et du coup...
de le travailler, en fait.
Et de le travailler, ouais. Et du coup, Tonnet a mis en place ça à grande échelle pour faire du mobilier de bistrot. Et c'est des chaises qui ont des courbes qui sont très élégantes. Voilà, ça m'a plu. J'avais 4 chaises et 2 fauteuils que du coup j'ai modernisé aussi, donc mélange bois peinture pour leur redonner un aspect un peu plus contemporain, mais en conservant quand même la ligne et la couleur du bois d'origine. Elles étaient entièrement peintes en blanche, donc c'était à mon goût pas très joli.
Mmh.
Et dessous, on a découvert du hêtre qui avait une super belle robe de lièvre, justement pour rester dans le thème animal. C'est comme ça qu'on dit la couleur que prend le hêtre. Dans le temps, ça s'appelle robe de lièvre, c'est légèrement fauve, c'est très beau. Et du coup, j'ai mélangé cette couleur avec un gris anthracite et un sky gris dessus. Enfin voilà, c'est des pièces qu'on a remis autour de sa table, et là, la cliente était ravie. Donc moi, ça, c'est quelque chose qui me plaît, c'est de voir les gens heureux,
ouais.
De retrouver des pièces qu'ils ont vues pendant des années et qu'ils ne peuvent plus encadrer, mais à qui on laisse une deuxième chance de reprendre de la place dans l'espace de vie. Et voilà, quand j'ai des gens qui sont ravis, ça me...
Ça te ravit.
Ouais, ça me conforte dans l'idée que je fais quelque chose d'utile. Voilà. Et là, récemment, j'ai travaillé sur une porte en centre-ville de Die, place de la Comtesse. Une double porte en chaîne aussi, ça c'est pareil, symboliquement parlant, j'aime travailler sur les portes et les portes d'entrée.
Ouais.
Et là, c'est pareil, c'était une porte qui était toute noire, qui a pris la pluie, le vent, la neige. Enfin bon, bref, et dessous, un vrai beau trésor. Elle était en chaîne, elle est très claire. Donc, c'était un chouette travail.
Est-ce que les meubles ou les objets anciens te racontent des secrets, parfois?
Ah oui.
Ouais,
oui.
Tu nous en dévoiles?
C'est souvent au démontage que je découvre des étiquettes ou des morceaux de lettres qui sont glissés derrière les
tiroirs.
Des
morceaux de lettres?
Ouais, j'ai déjà trouvé des morceaux de lettres, des plumes d'écriture. C'était les usages de l'époque. Donc, on retrouve des courriers, on retrouve... des petits objets, mais même un trombone, je suis contente. Un trombone de 1700, ouais.
Et comment tu fais alors? Tu les replaces ou tu les sors, tu les donnes aux propriétaires?
Ouais, en général, je les restitue, je les donne aux propriétaires. J'ai eu des belles surprises en démontant, par exemple, des miroirs dorés. J'ai l'étiquette du miroitier, j'arrive à situer où est-ce qu'il a été construit. Et puis du coup, on peut remonter un peu la chaîne entre les infos qu'aurait mon client, c'est-à-dire d'où vient le meuble, est-ce que c'est quelque chose de familial, est-ce qu'il a été dans telle ou telle maison, comment il a été transmis. Et des fois, on arrive à remonter tout le fil d'une histoire. C'est super intéressant.
En fait, il y a un travail de recherche aussi. Oh,
ouais.
Enfin, sans vraiment être un travail de recherche, mais il y a de l'histoire, quoi. Enfin,
c'est ça. Ouais. C'est la petite histoire dans la grande histoire. Et moi, j'ai l'impression d'être la petite histoire dans la grande histoire. Parce que c'est des pièces qui sont encore là. Il y a eu des guerres, il y a eu des départs. Ces meubles, ils sont là, ils arrivent dans mon atelier. Mmh. Donc, je suis très honorée.
Ouais. Ouais. Combien de temps faut à peu près pour restaurer un meuble ou un objet? J'imagine que ça dépend peut-être...
Ça dépend de la pièce en fait. Ça dépend si c'est des séries, si c'est une armoire ou une commode, ça ne prendra pas le même temps. Puis ça dépend aussi de la demande du client ou de la cliente en fait. Il y a plein de manières de restaurer. J'arriverai pas à quantifier vraiment. Il me faut la pièce en fait pour réussir à savoir combien de temps ça prendra.
Voilà, et du coup, là, tes perspectives d'avenir, parce que ton atelier, enfin, tu vas devoir te trouver un atelier, ce qui est quand même super essentiel, en fait, dans ton travail.
Ah oui,
ton travail.
Un lieu. J'aimerais trouver un lieu dans lequel je sois un peu plus visible. Je pense que ça me plairait de faire partie des commerçants et d'avoir un contact pour transmettre. Ah oui, à ça, j'aimerais ajouter aussi que je voudrais accueillir des gens en stage.
Ouais.
Voilà, que ça c'est une démarche qui m'intéresse, en fait. Je prends toutes sortes de profils, même des collégiens, ça m'intéresse aussi. J'ai accueilli plusieurs collégiens dans leur stage de 3e pour leur permettre de savoir s'ils sont plutôt manuels et aussi leur transmettre le goût de l'histoire. Parce qu'on a plein de manières de voir l'histoire. Moi, j'ai redécouvert l'histoire après.
Après l'école ?
Ouais. Quand on étudiait tous les Louis XIV et tout ça, que j'étais au collège, ça ne m'intéressait pas du tout. Or là, l'histoire du mobilier, elle est liée aussi à l'histoire de France. Et du coup, cette redécouverte, elle était hyper intéressante à l'âge adulte. Et je me suis régalée, en fait, à me plonger dans les livres d'histoire. Ouais, c'était chouette. Et du coup, des fois, ça me plaît de prendre au vol des ados qui ne savent pas trop où ils vont et essayer de leur
leur donner
un petit message. Ouais. Pour s'inscrire dans le temps, parce que moi, je me sens utile quand je fais ça, en fait.
Et on te contacte comment ?
Pour le moment, on me trouve encore à Luc, pendant 2 mois.
Voilà. Donc, où, à Luc ?
Faubourg Saint-Laurent, juste après le temple. Voilà, à peu près à 100 mètres sur la gauche, il y a un atelier avec des grandes portes vitrées gris anthracite. C'est un espace que je partage avec une amie à moi qui est potière.
D'accord.
Voilà, qui elle aussi cherche un local. On est deux dans ce cas, donc j'en profite. Voilà, sinon je suis joignable par téléphone.
Tu nous donnes ton numéro de téléphone ?
Oui, le 06 23 60 77 09 ou par mail à melet.lea@vivaldi, comme le compositeur.net. Et j'ai une page Facebook aussi qui s'appelle Melet Léa l'atelier. Pour le moment, un site qui est en maintenance.
Et du coup, ton atelier, tu y es encore pendant combien de temps là sur Luc Andiwa ?
Pendant 2 mois.
Pendant 2 mois encore, ouais. Donc il y a urgence.
Oui, il y a urgence à trouver quelque chose.
Voilà. Merci beaucoup Léa.
Merci Tania.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.